Europe 1.
Le métier de roi est grand, noble.
Tous les jours sur Europe 1,
mais ce n'est pas exempt de peine.
Historiquement vôtre.
Ça décoiffe, ça scalpe, ça tourne le cul.
The successor to the kings and queens of history.
J'accepte avec une émotion profonde la couronne qui m'est offerte par le peuple de Hongrie.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, Clémentine,
bonjour
Jean-Luc,
Stéphane.
David,
bonjour
à vous,
Stéphane Bern.
Et celui qui est aussi avec nous aujourd'hui, notre guide culinaire vivant et même bon vivant, bonjour Olivier Pousse.
Bonjour Stéphane, tout court.
Je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire, sans se la raconter, en compagnie de trois dames qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont un point commun. Aujourd'hui, n'en déplaise à Molière, qui aurait été ravi, j'en suis certain, qu'on lui vole son titre, on réunit des femmes savantes. Oui, oui, c'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi. Et pour commencer, attention, hein, Einstein peut en cacher une autre. Eh oui, je vous raconte Mileva Einstein, reléguée au rang de femme 2. Une scientifique qui a joué un rôle aux côtés du physicien de génie, mais aurait pu jouer bien mieux aussi, vous verrez. Puis la sage Angélique du Coudray, sage-femme surtout, est première du genre qui a participé à l'éducation de milliers de sages-femmes dans la France entière, sauvant à la fois des vies des femmes sur le point d'accoucher, mais aussi des nouveau-nés. Et après les mortes, la vivante. C'est vous, Jean-Luc, qui dresserez vers 17h30 le portrait de notre troisième dame du jour, une chercheuse en intelligence artificielle.
Oui, et parce que vous savez que j'aime me compliquer la tâche, je vous parlerai aujourd'hui d'une chercheuse dont j'arrive à peine à prononcer le nom. Elle s'appelle Timnit Gebru. Pourquoi ? Ça, faut demander à ses parents. Et pourquoi je vous en parle ? Parce qu'elle est une femme savante et vivante. C'est tout ce qu'on me demande.
Ah ben c'est vrai, bien joué.
Donc il n'y a pas Clémentine dans les portraits de du
non.
Jour.
Non. Dans les femmes savantes.
Ouais, ouais. Je devais faire Clémentine.
Ah, alors
je
vais faire mon autoportrait si vous voulez.
D'accord. Dans les femmes bavardes, c'est pas tout à fait la même chose.
Une bande d'andouilles, non mais vraiment.
Ça fait aussi, très longtemps qu'on va pas mettre d'andouilles. Je me sens très offensé.
Eux aussi sont des savants dans leur genre, mais parfaitement vivants, pourvu que ça dure. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, c'est Clémentine, Portier-Kaltenbach. De qui nous parlez-vous aujourd'hui ?
Eh bien, sans doute de la pire des femmes savantes, une grande mythomane qui, toute sa vie, a tenté de se faire passer pour une scientifique de premier plan, alors qu'elle était quasiment analphabète. C'est bien sûr Elena Ceausescu, l'épouse du dictateur.
Oui, ouais. Mais vous savez qu'il y a eu
Nicolas, vous avez tout enjoué.
Nico, votre ami
Nico. Il y a eu une nostalgie dans votre Nicolas.
Qu'est-ce qui nous manque après la chute des Ceausescu, il y a eu un petit livre qui est paru qui s'appelait Les carnets d'Elena Ceausescu.
Oui.
Et c'était très drôle parce que, évidemment, c'était une parodie. J'imagine c'est pas elle qui les écrivait.
Oui.
En disant son programme. Il y avait des choses très drôles.
Ah oui, on va lire ça.
Je vous le retrouverai.
Cette chère Elena.
Elle a coûté très cher, oui.
Ouais.
Lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, souvent la sienne. C'est David Castello-Lopez. Là, vous parlez de quoi, vous ?
De quelque chose qui est pas forcément qui nous obsède tous, mais en tout cas dont on a tous besoin aujourd'hui, ce sont les satellites.
Ah oui ?
Voilà.
Oui.
Alors, on sait un petit peu l'histoire des satellites, mais ma chronique sera riche en fun facts.
La mienne sur Elena Ceausescu, si elle sera riche en fun facts.
Ah oui.
En fun facts. Non, parce que là, où on a l'impression des faits téléphonés. Oui. En phone fax.
Ah oui,
avec les magistes, c'est même une faute fax. C'était autre chose.
Oh, ça va. Hein.
Bon, bref, les origines, c'est dans toute fin d'émission et juste avant, comme dirait l'autre.
Mais aïeux quelle époque.
Ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte dans les années 1880. On parle cuisine avec vous, Olivier Pousse. C'est d'un homme en particulier qui a changé notre façon de manger. Pourtant, il n'était pas cuisinier.
Non, on le connaît comme l'inventeur du vaccin contre la rage. Et pourtant, oui. Louis Pasteur a bouleversé le contenu de nos assiettes.
Oui, la pasteurisation.
Entre autres, mais vous verrez qu'il y a d'autres choses. Ah non, il y a, c'est énorme ce que les travaux de Pasteur ont impliqué sur le monde de la gastronomie en général.
Bah écoutez, mes aïeux, quelle époque, ce sera tout à l'heure, vers 17h40.
Mais avant cela, dans trois quarts d'heure, vous allez aiguiser les dagues et remplir les mortiers. C'est un duel d'une cruauté à nul autre, pareil, qui va avoir lieu dans le quiz historique. Ça s'appelle Burn to Be Alive. Et il va y avoir autant de survivants que de victimes, je vous préviens.
Vous n'avez pas l'impression d'en faire un peu trop, là, Jean-Luc ?
Un petit peu.
Bon, passons. Pour l'heure, je vous raconte notre premier personnage du jour.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Elle a été l'amie puis l'amante et surtout le soutien indéfectible de l'un des plus grands génies du XXe siècle. Elle-même physicienne, elle l'a, dit-on, épaulée dans ses recherches et pourtant, elle a été éclipsée par la célébrité de son époux. Je vous raconte maintenant Mileva Einstein, l'épouse d'un certain Albert. Nous sommes en 1943. L'Allemand Albert Einstein a émigré aux États-Unis comme nombre de savants juifs chassés par le nazisme. Pour soutenir l'effort de guerre, le gouvernement américain lui demande alors de mettre aux enchères le manuscrit de sa célèbre théorie de la relativité restreinte, publié en 1905. Contre toute attente, le scientifique déclare ne plus l'avoir et doit en réaliser une copie. 19 ans plus tard, dans une biographie qu'il consacre au physicien, le journaliste Peter Michelmore fait une révélation fracassante. Le père de la relativité aurait délibérément détruit son manuscrit original pour que l'on ne s'aperçoive pas de l'apport scientifique de son épouse Mileva. Une hypothèse en réalité peu crédible, puisque la seule preuve est le témoignage du propre fils d'Albert Einstein, qui entretenait, il faut bien le dire, une relation houleuse avec son père. Si la théorie de Peter Michelmore semble donc fragile, elle a un mérite. Celui de mettre en lumière la compagne d'Albert, Mileva Einstein. Cette pionnière fit preuve de courage et de persévérance pour percer dans la physique à une époque où ce domaine était semé d'obstacles pour les femmes. Mileva Maric est née en Autriche-Hongrie le 19 décembre 1875. Tout semble se dérouler au mieux, mais lorsque Mileva fait ses premiers pas, ses parents s'aperçoivent qu'elle boite. Consultée, les médecins sont formels, elle devra supporter cette infirmité pour le restant de ses jours. Cette disgrâce détermine certainement le tempérament effacé et taciturne de Mileva, qui doit subir les moqueries des autres élèves à l'école. La petite fille brune se réfugie dans la science et les mathématiques. « Prenez bien soin de cet enfant, c'est un phénomène rare », aurait dit l'un de ses professeurs. Les parents n'ont guère besoin d'un tel conseil, ils savent combien leur fille est brillante. Mileva excelle dans toutes les matières artistiques, littéraires et scientifiques, si bien que son père parvient à lui obtenir une autorisation pour suivre les cours de physique de la Royal High School à Zagreb. Elle devient la première fille dans l'Empire austro-hongrois à pouvoir suivre des cours de physique. À 21 ans, la jeune fille rejoint l'Institut Polytechnique de Zurich où elle intègre un groupe de 6 étudiants. Sur les bancs se trouve un jeune homme de 17 ans, Albert Einstein, avec qui elle se lie d'amitié. Albert est bavard, amusant et naturellement doué. Mileva est quant à elle très sérieuse. C'est une travailleuse acharnée. La légende veut qu'il se retrouve autour d'un exercice de mathématiques qu'Albert ne parvient pas à résoudre et dont Mileva détient la solution. Rapidement, leur amitié prend une tournure plus intime. Albert Einstein trouve un logement non loin de la pension Bechtold où Mileva Maric réside. Il peut ainsi lui rendre visite pour échanger des livres, jouer de la musique ensemble, lire des ouvrages scientifiques et discuter de leurs cours surtout. Car la jeune femme donne la priorité à ses études et ne pense qu'à une chose, devenir physicienne. Et cela semble plutôt bien parti. Puisqu'à la fin de ses cours, Mileva obtient une note de 4,7 sur 5. Albert, quant à lui, doit se contenter d'un 4,6. Hélas, lors d'un oral décisif, alors que le professeur accorde une note de 11 sur 12 à tous les étudiants masculins de son groupe d'études, Mileva ne reçoit qu'un 5. Ce n'est pas assez pour être diplômé. Et l'étudiante doit repasser ses examens alors qu'elle est enceinte. Oui, la jeune femme porte l'enfant d'Albert Einstein, mais ce n'est pas un heureux événement. N'étant pas mariée, elle doit cacher sa grossesse aux examinateurs. Pendant ses oraux, le stress lui fait perdre tous ses moyens. Elle échoue en théorie des fonctions et en astronomie. Non seulement Mileva Maric renonce à ses rêves de doctorat, mais doit aussi abandonner son bébé pour éviter un scandale. Les parents d'Albert s'opposent en effet catégoriquement à son union avec une femme qui n'est pas allemande, plus âgée que lui et boiteuse de surcroît. « Quand tu auras 30 ans, elle sera déjà une vieille sorcière », dit sa mère à Einstein. À la mort du père, pourtant, les deux jeunes gens peuvent convoler en juste noces et Mileva Einstein donne bientôt naissance à un petit garçon, Hans Albert. Dans les premiers jours, Albert Einstein passe des heures auprès d'eux. Il berce son fils tout en lisant et fumant le cigare, à l'époque. Il lui fabrique aussi des jouets, mais cet enthousiasme ne dure guère. Le grand Einstein délaisse sa famille pour reprendre ses travaux de physique, tandis que Mileva, qui a 29 ans, s'occupe seule de leur maison à Berne. Sa passion pour la science l'aurait-elle quitté ? Absolument pas. La nuit venue, le couple Einstein se penche ensemble sur des exercices de physique autour d'une lampe à kérosène. Mileva suit de près les travaux d'Albert. Elle contribue aux recherches en bibliothèque, l'aide dans ses calculs, relit ses articles et le conseille souvent. Sans doute est-elle déçue qu'il ne la mentionne jamais dans ses travaux, mais en 1905, elle est surtout fière de son époux. La prestigieuse revue allemande Annalen der Physik publie 5 de ses articles, dont l'un dévoilant sa théorie de la relativité avec la célèbre formule E égale mc2, qui fera de lui l'un des plus grands scientifiques du XXe siècle. Tandis qu'Albert entre dans la lumière, Mileva Einstein demeure quant à elle dans l'ombre. Souvent seule à la maison, elle s'ennuie. Elle suit des cours de physique quelque temps, aurait aussi envisagé un poste de bibliothécaire à l'université, mais sans diplôme, elle n'a aucune chance. Avec Paul Habicht, ingénieur et ami de la famille, elle invente une machine capable de mesurer de très petites tensions électriques, mais c'est un échec. Décidément, le sort n'est pas clément avec Mileva Einstein, qui se console en aidant Albert à préparer ses cours. Désormais titulaire d'une chaire académique à Zurich, Einstein donne son premier cours en 1909 à partir de notes écrites par sa femme. Mileva lui prépare également les sandwichs qu'il emporte au travail et l'accompagne à des concerts lorsqu'il n'est pas absent pour ses conférences et ses colloques. Vous l'avez compris, Mileva consacre tout son temps à son mari. Et pourtant, Albert la délaisse pour entamer une relation amoureuse avec sa cousine Elsa Löwenthal. Après Prague et Zurich, il déménage à Berlin pour se rapprocher de sa maîtresse et entraîne avec lui Mileva et leurs deux enfants, Hans Albert, âgé de 9 ans, et leur dernier Édouard, âgé de 3 ans. À Berlin, les scènes de ménage se multiplient. Albert instaure chez lui des règles d'un autre temps. Si Mileva Einstein veut rester à ses côtés, elle doit s'occuper de son linge et de ses repas, mais aussi accepter de se taire lorsqu'il lui demande. En 1916, à 44 ans, Mileva accepte le divorce et repart pour Zurich où elle se consacre entièrement à ses enfants. Édouard surtout a besoin d'elle, alors qu'il sera dès l'âge de 21 ans régulièrement interné pour des crises de schizophrénie. Ses soins coûtent cher. Aussi Albert Einstein s'engage-t-il à ce que l'argent gagné grâce à son prix Nobel de physique en 1921 soit consacré à ses enfants. Par la suite, il tente de soustraire une partie de cette somme en ajoutant une clause à son testament, mais son ex-épouse menace de révéler sa contribution à ses célèbres travaux. Mal lui en prend. Elle reçoit une lettre d'une violence surprenante. « Tu m'as fait rire quand tu as commencé à menacer d'écrire tes mémoires. T'est-il jamais venu à l'esprit que personne ne prêterait la moindre attention à tes salades ?» Salade ou pas, Albert Einstein ne modifie pas son testament. Et Mileva n'écrit pas non plus ses mémoires. Après sa mort, le 4 août 1948, à l'âge de 72 ans, une plaque sera posée sur la façade de sa maison à Zurich avec cette phrase extraite d'une lettre d'Albert Einstein. « Comme je serai heureux et fier quand nous aurons tous les deux terminé notre travail sur le mouvement relatif. » Pour certains, cette déclaration prouve le rôle primordial que Mileva Einstein aurait joué dans les travaux scientifiques de son époux. Fut-elle collaboratrice, assistante, voire simplement une oreille attentive ? Nul ne le sait. Mais ce dont nous sommes certains, c'est que Mileva Einstein s'est battue dans l'ombre pour devenir ce qu'elle était, une femme savante, une femme de science.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Mileva Einstein avec Clémentine Portier-Kaldenbach, nous avons le plaisir d'accueillir un auteur qui consacre au couple un passionnant livre qui paraît aujourd'hui. Bonjour Laurent Lemire.
Bonjour.
Laurent, vous publiez en effet Mileva et Albert Einstein, les secrets d'un couple aux éditions Talendier. Vous y écrivez que si lui est entré au panthéon des plus grands génies de notre temps, elle a été reléguée dans l'oubli le plus complet. À travers ce livre, vous avez peut-être souhaité rétablir un équilibre ?
Exactement, j'ai souhaité faire ce qui est au fond un travail de tout historien, vous le savez bien, cher Stéphane, faire la part des choses, c'est-à-dire que il s'agit pas de minimiser le rôle de génie qui était celui d'Albert, mais de rétablir un peu l'équilibre et rappeler quand même que cette femme a contribué pendant quelques années à des découvertes fondamentales, notamment celle de la relativité.
Cette femme était également un génie, mais imaginons qu'elle ne soit pas retrouvée enceinte et donc elle ait pu passer son examen et qu'elle l'ait eu. Quelles étaient les perspectives pour une femme à l'époque, quand on n'est pas Marie Curie, mais qu'on a le talent qu'avait cette femme ?
Elle aurait pu effectivement devenir une grande scientifique. Vous citiez Marie Curie, mais Marie Curie, elle a concilié, je dirais, son rôle de scientifique, son rôle de femme et son rôle de mère aussi, puisqu'elle a eu des enfants. Donc, elle aurait pu avoir une carrière tout à fait formidable dans ce monde où la place des femmes n'était pas évidente. Ce monde scientifique était quand même très réservé. On cite toujours Marie Curie, mais en dehors de Marie Curie, il y a quelques mathématiciennes, quelques femmes médecins, mais en physique, très peu.
Elle était seule femme dans son école, d'ailleurs.
Elle était la seule. Oui. Elle était la seule.
Mmh. Au fil des pages, on comprend qu'au début de sa carrière, Mileva a largement aidé Albert Einstein. Sans elle à ses côtés, il n'aurait pas été Einstein, d'après vous?
Il l'aurait sans doute été, mais moins rapidement. Il n'aurait pas fait cette carrière extrêmement rapide, parce que tout se passe en quelques années, et elle a été vraiment l'aiguillon de cela. Mmh. Son premier article scientifique, dont vous l'avez, vous rappeliez, les Annales der Physik, elle y a contribué. Mmh. Alors, c'était pas E égale MC2, mais elle y a contribué. Et donc, c'est vraiment une histoire d'amour, de science, parce que ils avaient tous les deux, il y avait cet amour, parce que vraiment, c'est un coup de foudre, mais c'est aussi un coup de foudre scientifique.
Merci. Laurent, la question incontournable, c'est celle du rôle qu'a joué Mileva Einstein dans l'élaboration de la théorie de la relativité. Donc, la question fatidique, c'est est-ce que E égale MC2, c'est elle? Ou, en tout cas, en partie du moins?
En partie, oui, parce que elle a véritablement contribué aux travaux d'Albert dans ces années cruciales, et cette fameuse année 1905 où il y a tous ces articles qui révolutionnent la physique, elle est vraiment encore, le couple est encore très soudé, travaille ensemble, elle est plus mathématicienne que lui, donc elle lui refait ses calculs, elle lui ouvre aussi la porte à une bibliographie à laquelle il n'avait peut-être pas accès, parce qu'elle lit beaucoup d'ouvrages scientifiques. Il ne faut pas oublier qu'elle a aussi fait, elle était à l'école polytechnique de Zurich, mais pendant quelques mois, 6 mois, elle va à Heidelberg, et où elle a un professeur formidable qui s'appelle Philippe Lennart, qui après, hélas, virera du côté des nazis. Mais c'est quand même un prix Nobel, grand physicien, et donc on explore toute cette nouvelle physique qui est en train de se faire, et ça, elle leur rapporte tous ses cours, elle leur rapporte à Albert. Donc oui, elle a eu un rôle.
On parle de l'effet Matilda pour qualifier en général la spoliation, oui, ou la minimisation, en tout cas, de la contribution des femmes à la recherche scientifique. Est-ce que, à votre avis, Mileva Einstein a été victime de cela?
Oui, on peut la classer effectivement victime de l'effet Matilda. Alors l'effet Matilda, c'est effectivement minimiser le rôle des femmes. Il y a d'autres cas comme ça. Il y a un prix de Nobel de médecine dans les années 30 qui était décerné à 3 personnes, et finalement, l'un des récipiendaires a donné une partie de la somme à une femme qui avait contribué aux travaux. Et je rappelle qu'effectivement, Albert avait donné le prix Nobel...
L'argent
du prix Nobel à Mileva.
En même temps, il l'avait laissé tomber avec deux enfants.
Oui, alors il y a l'effet, c'est intéressant, parce qu'il y a l'effet Matilda, et il y a aussi l'effet Mathieu, qui est aussi un concept américain des années 90, où on explique que certaines institutions restent conservatrices et ne veulent pas que les femmes aient du pouvoir. C'est-à-dire, ça fait référence à l'évangile de Matthieu, on donne à ceux qui ont. Les riches deviennent plus riches, les pauvres plus pauvres.
Ouais. Dans votre livre, vous dressez un portrait moral de ce couple. On a l'impression, on découvre que Mileva et Albert Einstein ont des caractères tout à fait opposés. Qu'est-ce qui les a attirés l'un vers l'autre? Est-ce que c'est vraiment la science? C'est-à-dire qu'il a découvert, Einstein, qu'elle était son alter ego. On a l'impression que dans leur correspondance, ils parlent pas simplement d'amour, ils parlent d'équations, ils parlent de physique. Enfin, est-ce que c'est ça qui les a cimenter? Est-ce que sans la science, et de la serait aimée?
Je ne pense pas. Je pense que vous touchez un point tout à fait crucial. Mais on retrouve ça chez Pierre et Marie Curie. Leur échange de correspondance, c'est à la fois des lettres d'amour et de science. C'est-à-dire qu'il y a toujours une petite équation qui traîne. Et là, véritablement, ce qui les a réunis, c'est la passion de la science. Et encore une fois, on est à une période où la physique est en train d'être révolutionnée par Einstein, mais par d'autres aussi. C'est à la fois, on parle du cosmos, l'univers, mais aussi la mécanique quantique. Donc, il se passe énormément de choses. Et elle, Mileva, comme Albert, ont envie de participer à cette révolution-là. C'est évident. Et puis, je dirais, ce qui les a réunis aussi, c'est aussi la passion pour la musique. Lui, c'était le violon, et elle jouait du piano et de la tambourina.
Elle est devenue prof de piano, d'ailleurs, me semble-t-il.
Absolument.
Ouais. En s'intéressant à leur vie commune, on découvre un Einstein nettement moins sympathique et moins jovial que l'image qu'on a de lui en vieux savant qui tire la langue. C'est un homme qui voulait toute la lumière, qui dépréciait son épouse auprès des autres, et qui ne regardait que lui. C'est lui, en fait, qui a effacé
Mileva des mémoires. Ben, il a eu un rôle crucial dans son effacement, mais je dirais qu'elle s'est aussi, hélas, effacée elle-même, d'une certaine manière, parce qu'elle le dit à un moment donné, j'ai renoncé à mes rêves. Et donc, ça veut bien dire mes rêves, c'est mes rêves scientifiques. Donc, elle a accepté de n'être que la mère de ses enfants, la femme au foyer, et qui, de loin en loin, ne l'aidait plus dans ses travaux scientifiques.
On parlait à l'instant de leur correspondance. Est-ce que, dans cette correspondance qui nous a été conservée, on peut lire et on peut constater la dégradation de leur relation et la façon... Est-ce que ça s'envenime vraiment entre eux pour arriver au dénouement de la séparation ?
Oui. Il y a une rupture après, je dirais 1905, il devient avec ses fameux articles le personnage, le physicien incontournable. Et après, nous n'avons plus qu'à travers la correspondance qu'elle a avec sa grande amie Elena, c'est très important, c'est à partir de cela qu'on peut documenter un peu la vie de Mileva. On voit bien que la correspondance, elle n'est liée qu'à des histoires d'argent. C'est-à-dire, elle a besoin d'argent parce qu'elle ne gagne pas sa vie, elle n'a pas de métier. Donc, elle a besoin d'Albert pour s'occuper de ses enfants, pour l'instruction. Et toutes ses lettres ne parlent que de ça. Donc, plus de science.
Après plusieurs années de discorde, le divorce est prononcé entre Mileva et Albert Einstein. Quelle a été sa vie ensuite, Mileva Einstein ?
Bah, c'est une vie, selon le mot de, j'aime beaucoup l'expression de Pierre Michon, une vie minuscule. C'est-à-dire que c'est pas une vie inintéressante, loin de là, mais c'est quelqu'un qui a une vie comme beaucoup d'autres, de femmes, qui s'est occupée de ses deux enfants à Zurich. Hans Albert, qui deviendra lui ingénieur et partira aux États-Unis dans les années 30. Et puis Edouard, vous l'avez rappelé, Stéphane, qui était schizophrène. Et c'est quelqu'un qui criait, qui a même violenté sa mère. À la fin de sa vie, elle était seule avec Edouard et un infirmier. Donc, c'est une vie très triste, très triste.
Est-ce qu'on observe aujourd'hui un mouvement qui tendrait, à part ce que vous faites, mais peut-être c'est l'apothéose, qui tendrait à réhabiliter le rôle de Mileva Einstein, à lui rendre en quelque sorte ce qui lui appartient ?
On commence à parler un petit peu d'elle. Vous avez rappelé la plaque qui existe à Zurich. Oui, alors, elle est en allemand, alors tout le monde serait en anglais. Oui. Voilà, c'est un peu difficile. mais on a un mouvement. Il y a quelques, je crois, c'est 3 ans, il y a eu une allée Matilda inaugurée à Toulouse en l'honneur pour rendre justice aux femmes dans l'histoire des sciences. Mais c'est une allée. C'est une allée. Il faudrait peut-être faire un boulevard.
C'est mieux qu'une voie sans issue.
Oui, ça aurait pu être une impasse, en effet. C'est pas si mal.
Merci beaucoup Laurent Lemire.
Merci à vous.
Votre livre Mileva et Albert Einstein, Les secrets d'un couple, est disponible aux éditions Talendier. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoine qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre.
Oui, et je pense que l'indice musical du jour va vous mettre en joie.
On va parler de Pierre Perret ou du Zizi ?
D'après vous ?
Du Zizi.
Du Zizi, on va parler du Zizi et de la représentation du Zizi, pour être très précis.
Ah, très bien. Périsonium.
Mais avant cet affrontement, je lui laisse la parole, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
Dans l'intimité de l'histoire.
Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez la terrible Elena Ceaușescu, l'épouse du dictateur roumain qui a été faite docteur honoris causa, alors que c'était loin d'être le cas.
Oui, c'est surtout cet aspect du personnage auquel je me suis intéressée aujourd'hui, c'est-à-dire cette espèce de prétention à vouloir incarner le savoir alors qu'elle était quasiment analphabète. Pendant toutes les années où son mari était au pouvoir, donc entre 1965 et 89, elle a fait Elena Ceaușescu, comme lui, l'objet d'un véritable culte de la personnalité. Elle s'était autoproclamée mère de la nation. Et elle avait une soif de reconnaissance, de pouvoir, de richesse, quasi pathologique, c'est très étrange. Enfin, la soif de pouvoir, on peut le comprendre, mais ce besoin qu'on imagine qu'elle était un grand esprit, ça c'est étonnant. Et elle a œuvré pendant toutes ces périodes de pouvoir pour qu'on la considère comme une grande scientifique. Or, née dans une famille paysanne d'une petite ville de près de Bucarest, elle avait été très très mauvaise en classe, elle avait abandonné l'école à 14 ans. Elle a fait occupé plusieurs emplois à Bucarest et elle a, entre autres, elle a commencé à suivre des cours du soir en chimie à l'Institut municipal d'éducation des adultes de Bucarest. Elle a été fichue dehors parce qu'elle avait triché à l'examen et menti sur le fait qu'elle avait son bac qu'elle n'avait pas. L'examinateur qui lui a dit, qui a dû lui dire, mademoiselle, écoutez, vous avez échoué, a raconté après que toute sa vie, il a vécu dans la terreur qu'elle vienne le choper en lui disant, c'est vous m'avez pas donné mon examen, donc monsieur en prison directement. En tout cas, examen ou pas, elle est l'épouse du nouveau chef d'État de la Roumanie. Ceaușescu est devenu chef d'État de la Roumanie en 1967. Donc, quand vous êtes la femme du patron, ça vous permet d'obtenir votre doctorat sans trop travailler. Donc, cette année-là, précisément, elle obtient un doctorat en chimie après avoir soutenu sa thèse. Alors, sa thèse, c'était quoi ? Sur la polymérisation stéréospécifique de l'isoprène sur la stabilisation des caoutchoucs synthétiques lors de la copolymérisation.
Oula.
Oui.
Déjà, écoutez, l'intitulé m'échappe.
C'est compliqué, mais de toute façon, dites-vous une chose, c'est que cette thèse n'a jamais été écrite, jamais soutenue et jamais publiée. Mais c'est pas grave, Elena...
Ah bon, mais elle aurait pu au moins...
Non, parce qu'en fait, quand elle l'a présentée, vous êtes obligé de convoquer les gens, c'est une sorte d'audience publique. Or, il y a des gens qui se sont présentés, et en fait, à 7h du matin, il a été indiqué que la thèse avait été passée, soutenue, présentée à 6h du mat, et que donc, il l'avait loupée. Bon, tu parles, Charles. En tout cas, elle va continuer son petit bonhomme de chemin dans le domaine de la chimie. Elle va devenir professeure, docteur, ingénieure Elena Ceaușescu. Elle publie des études dont elle n'a jamais écrit le moindre mot, ni même une virgule. Leurs vrais auteurs n'ont pas le choix. On va les chercher, on leur dit, écoutez, vous faites ça et vous serez remerciés pour votre travail et votre discrétion. Elle devient directrice de l'Institut roumain de chimie de Bucarest, puis présidente du Conseil national de la science et de la technologie. Tout ce qui se fait en recherche passe par elle. C'est quand même aberrant.
Mais elle y connaissait quelque chose ou
rien
du tout ?
Non, elle y connaissait rien du tout. Je pense qu'elle était capable de mimer certaines choses pour faire illusion. Mircea Corciovici, l'un des meilleurs scientifiques de l'Institut, a témoigné dans un livre après la chute de Ceaușescu. Il écrit « Elena ne savait pas ce qu'était un chromatographe et ne reconnaissait pas la formule de l'acide sulfurique qui était enseignée aux étudiants de première année en chimie. » Un autre scientifique raconte qu'il avait publié sous le nom d'Elena des articles auxquels il savait pertinemment qu'elle ne pouvait rien comprendre. En tout cas, à chaque fois qu'il voyageait à l'étranger pour des visites d'État, des cérémonies étaient systématiquement négociées avant le voyage, au cours desquels Elena recevait des diplômes honorifiques et d'autres récompenses pour son travail scientifique. Bon, mais par exemple, en 75, elle est faite docteur honoris causa de l'université de Téhéran et de l'université de Jordanie à Amman. Plus tard, l'université de Manille aux Philippines lui décerne un doctorat honorifique. Mais ça, c'est parce que Ceaușescu avait allongé une certaine somme, une somme importante à Manille. Donc, ok, on va faire votre épouse docteur honoris causa. Elena rêvait, c'est ça son rêve ultime, c'est d'être acceptée comme membre de l'Académie des sciences britanniques. Mais enfin, vous imaginez, c'est impossible. Mais il fallait quand même donner quelques cautions à Ceaușescu. Donc, elle a eu un diplôme honorifique de la Central London Polytechnique et une bourse honoraire de l'Institut Royal de Chimie. Donc, je ne sais pas d'ailleurs ce que nous, Français, nous avons fait. Est-ce qu'elle a des titres de docteur honoris causa d'université française ? Mais enfin, les Anglais l'ont refusé à l'Académie des sciences, mais ils l'ont quand même accepté dans les deux instances que j'ai citées. Ça l'affiche mal, tout de même. Alors, certains s'y laissaient prendre parce qu'elle avait une technique très au point, si vous voulez. Je pense qu'elle devait quand même un peu apprendre. Elle savait vaguement de quoi il s'agissait. Mais elle emmenait toujours un traducteur avec elle. On lui posait des questions sur ses recherches. Elle répondait en roumain, de toute façon que son interlocuteur comprenait pas. Et le traducteur, qui était en fait un scientifique, faisait les réponses à sa place. Donc, ce qu'elle disait paraissait pertinent parce que, ce qui était traduit n'était pas ce qu'elle avait dit. Bon, de toute façon, alors on le sait, les Roumains la détestaient. Ils la trouvaient médiocre, grossière, sournoise, vindicative. Elle était absolument détestée. Mais ce qui est étonnant, c'est que voyez-vous, dans le procès expéditif auquel elle et son époux ont eu droit, la question de ce qu'elle avait ou non effectivement produit comme travaux est venue sur le tapis. À côté des milliards de dollars que son mari et elle avaient détournés toutes ces années sur des comptes étrangers, des dizaines de milliers de morts et disparus pendant qu'ils étaient au pouvoir, et ben, cette escroquerie supplémentaire, qui semble dérisoire par rapport au reste, était pour les Roumains proprement insupportable, comme si elle résumait à elle seule le mensonge qu'avait été le système tout entier.
Merci beaucoup Clémentine. Et maintenant, c'est le moment de l'émission où vous avez, cher Jean-Luc, l'outrecuidance de vous poser en juge-arbitre de mes connaissances historiques, vous qui n'avez qu'un diplôme, celui de l'école du rire.
Ouais, bah, vous savez ce qu'il vous dit, Bose le clown, hein? Allez, 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 jouons.
D'accord.
Une question pour vous qui êtes un petit peu insolent, Stéphane. Alors, vous le savez comme moi, vous qui allez dans les toilettes des hommes à Europe 1, de tout temps, l'homme a aimé dessiner des appareils génitaux sur les parois. La première œuvre d'art phallique date d'il y a 34 000 ans, voire selon certaines estimations de 42 000 ans. Quoi qu'il en soit, quelle était cette œuvre ? Plusieurs propositions. Une sculpture sur corne de bison, une peinture dans une grotte représentant un sexe de 75 cm, ou une lance en forme de phallus.
Alors, si vous voulez, moi qui connais un petit peu la Grèce, il y a l'allée des sexes. Sur l'île de Délos, qui est intéressante.
Oui, mais là, on est en moins 34 000, nous a dit Jean-Luc. Donc, c'est largement là, avant Lascaux, parce qu'à Lascaux, il y a un homme en érection.
Oui, il y a un homme en érection. Mais on pourrait dire une sculpture sur une corne de bison.
Il y a les grottes en Espagne mais qui sont antérieures, voilà. Où il y a
moi,
des scènes pornographiques, c'est largement antérieures.
C'est plutôt une peinture,
oui,
j'irais
moi,
plutôt
aussi.
Une peinture.
Alors, sculpture sur corne de bison, peinture ou lance?
Non, peinture, je dirais.
Moi, j'irais aussi peinture.
Ouais,
peinture.
Vous allez sur
plus
la peinture tous les deux.
Ouais,
et
ouais.
En plus,
ça
75 cm, oui, parce qu'on n'avait pas l'idée des proportions.
Je ne sais pas, peut-être qu'ils étaient remarquablement bien dotés à l'époque. On vérifie.
Vous avez perdu.
Non, vous avez perdu tous les deux.
C'était le bison.
C'était le bison.
Ah oui.
Une sculpture sur corne de bison.
Bison futé.
Le phallus aurignacien sont des sapiens.
Ah oui, les aurignaciens.
Voilà, il a été découvert en Dordogne. Il est sculpté avec un authentique réalisme dans la cheville osseuse d'une corne de bison.
Eh bien,
d'accord,
j'ai perdu.
D'accord, bah oui, moi aussi j'aurais perdu.
On aurait tous perdu là-dessus.
Ouais, ouais.
Une question pour Clémentine. Va-t-elle prendre l'avantage? Nous avons parlé phallus, parlons maintenant mocassin à gland. Clémentine, est-ce que vous connaissez Ötzi?
Oui, je connais Ötzi. Il avait des mocassins à gland.
La momie néolithique qui a été découverte en 1991 à 3200 mètres d'altitude. Mm-hmm. Eh bien, à ses pieds, elle avait des mocassins, cette momie. Bon, pas à gland,
oui,
hein.
Oui, oui, tout à fait. Oui.
Mais c'est le record des plus vieux mocassins de l'histoire de l'humanité.
Oui, 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 ce sont des chaussures en peau, oui, oui.
Alors, est-ce que c'est
ils
vraiment les
d'être...
plus vieux?
Ah. Est-ce qu'on a pu retrouver? Il me semble qu'Ötzi, en tout cas, c'est la plus vieille momie retrouvée en Europe. On a trouvé des dépouilles dans des tourbières, mais est-ce que ces dépouilles avaient des mocassins? Et est-ce que la question, c'est les plus anciens qu'on ait trouvés?
C'est le record.
Le record?
Vrai
de...
ou faux?
Oui, allez, c'est vrai.
C'est vrai, on vérifie.
Vous avez perdu.
Vous me faites un bon début de jeu tous les deux. Hein.
Bah tant mieux, moi je préfère qu'on soit égalité comme ça.
Ötzi a effectivement eu le record des plus vieux mocassins, mais il a été battu en 2010 avec une découverte incroyable des mocassins en cuir taille 37 conservés dans de l'herbe sèche en Arménie. Cette paire aurait 5500 ans, là où Ötzi avait 5300.
Ouais, elle a 200 ans de plus, quoi.
Ah, bah, je l'assure, pour des mocassins,
ça compte. Comment vouliez-vous que je sache ça?
Ben maintenant, vous le savez.
D'accord, ben, c'est intéressant, merci.
Une question pour Stéphane, pour ouvrir le score. Thucydide était un historien athénien.
Oui.
Grâce à lui, on sait qu'à l'automne de l'année 428 avant Jésus-Christ, un nouvel impôt est créé. Ce nouvel impôt s'appelle l'Eisphora. Aussi fou que cela puisse paraître, il va servir pendant 8 ans à financer un système de crèches publiques. Vrai ou faux?
L'Eisphora.
Vous qui parlez très bien le grec.
Parce que comment dit-on mon garçon, un garçon, un enfant, c'est pas Kayton, un truc comme ça, n'entends? Non. Vous auriez savoir ça, Stéphane.
Eisphora, c'est pas du tout les enfants.
Non, mais ça finance pas des crèches. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais Stéphane,
ça
mais tout simplement.
À mon avis,
mais non,
un
ça.
Truc
mais
beaucoup
oui,
plus.
C'est pas des crèches.
Beaucoup enfin. Plus.
Il y avait des esclaves, il y avait des mères de famille dans le gynécée qui gardaient leur gosse.
Eisphora doit financer.
Ça doit être un truc.
Des trucs un peu.
C'est un truc pornographique, à mon avis.
Oh, mais pourquoi tout de suite?
Ouais, c'est un truc.
C'est guerrier aussi. Non, je dirais non.
Vous diriez non? Et vous pensez que c'est plutôt quoi alors? Vous avez dit quelque chose d'intéressant.
Lieu guerrier. Pour le délassement. Allez, des guerriers dans le...
Vous avez gagné.
Voilà.
Il va servir à financer les guerres.
Ah oui, c'est ça.
Bah oui, vous êtes surpris vous-même.
Non, mais...
Les Athéniens doivent verser 200 talents. J'aurais aimé vous proposer un ordre de grandeur, mais la valeur monétaire du talent a beaucoup fluctué à travers l'histoire.
Il y a une dévaluation terrible.
J'espère que vous n'avez pas mis toutes vos économies dans les talents.
Si on avait du talent, ça se saurait, oui.
Une question pour Clémentine. C'est le moment d'égaliser, Clémentine. On va rester dans le monde féerique de l'argent avec vous, Clémentine.
Ah, ben elle aime que ça.
Le franc à cheval a été créé le 5 décembre 1360 par une ordonnance prise par Jean le Bon. Ce dernier a créé cette monnaie à l'occasion de son anniversaire, 40 ans. Il voulait marquer le coup. La monnaie a servi à financer la fête d'anniversaire. Vrai ou faux?
Non. De toute façon, sous Jean le Bon, on ne fête pas son anniversaire. On ne fêtait jamais son anniversaire. On a très longtemps fêté les saints, mais l'anniversaire n'était considéré comme une chose totalement insignifiante et qu'on ne célébrait pas. Vous m'auriez dit, il a fêté les 10 ans de son règne ou son avènement ou son sacre. Ça, c'était crédible. Mais en aucun cas, il a pu fêter son anniversaire. Alors, je réponds non.
Bon, allez, on vérifie ça.
Vous avez gagné.
Vous avez gagné. Le franc cheval a été inventé pour créer de l'argent, en effet, mais c'était pas pour ça. C'était pour payer sa rançon.
Oui, exactement.
Jean le Bon a été capturé par le roi d'Angleterre, Édouard III. Il a fallu passer à la caisse.
Eh oui.
C'est une égalité parfaite. Il va falloir donc vous départager. Ça fait un petit moment dans ce quiz que nous n'avons pas rendu hommage aux valeureux pigeons militaires de la Seconde Guerre mondiale.
Vaillants.
Ben oui, les vaillants. Sachez que 32 pigeons ont reçu une médaille britannique. En France, aujourd'hui encore, dans la forteresse du Mont Valérien, en région parisienne, dépendant du 8e régiment de transmission, il existe un colombier militaire qui compte 182 pigeons. Ah non, il n'en reste plus que 180, en tout cas après ce coup de feu. Voici ma question. En quelle année l'armée suisse a décidé de dissoudre sa section pigeons?
C'était il y a longtemps ou pas?
Pas tant que ça.
En 98.
En 98. Et pourquoi vous riez?
Parce que ça m'amuse de répondre à cette question, comme si je savais en quelle année l'armée suisse avait arrêté d'avoir des pigeons. Donc je réponds au pif. Je dis que ça doit pas être dans les, je vois pas ça dans les années 2000. Ça me paraît trop récent. Pourquoi est-ce qu'ils d'ailleurs ils auraient arrêté? Ça se trouve ça va être il y a 2 ans.
Ça a été arrêté après 77 ans de bons et loyaux services. Et je vais vous donner un bel indice. C'était un 2 juillet que ça s'est arrêté.
Ah, c'est vrai, ça nous fait une belle jambe. 77 ans.
J'étais jamais contente, celle-là.
Parce que moi, je pensais qu'ils avaient des pigeons depuis très longtemps.
Moi aussi, c'est ce que j'aurais dit. Parce que les auraient-ils utilisés pendant la guerre de 14, certainement, parce que parfois il y avait des ruptures de communication. Donc ça veut dire, si c'est la guerre de 14, ça veut dire de 1918 plus 77, donc je suis pas si loin, parce que j'ai dit 80. Donc moi, je dis 98. Imaginons que la Suisse, et non, la Suisse n'était pas dans les belligérants dans la guerre de 14, elle n'est pas concernée par cette notion. Donc, et ils en auraient eu 77 ans.
Ah, il me faut une réponse.
Bon, moi, j'ai dit 98.
D'un côté.
J'aurais sur mon intuition du départ.
1978.
Oui, bon, écoutez, c'est sans regret. Oui. C'est sans regret parce que c'est largement... C'est Clémentine.
2000. C'est 2000?
Non, 1996.
Ah bien.
Franchement,
bravo.
Et, voilà, et depuis 1996, il n'y a plus de pigeons militaires en Suisse. Bravo, et Clémentine.
Merci, je mérite Clémentine, un accès-site de femmes savantes.
Voilà, exactement. Historiquement, vote continue avec Jean-Luc Lemoine, David Cassel-Lopez, Olivier Pouls et nos femmes savantes.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern.
Elle aurait sauvé des milliers de vies, celles de femmes en train d'accoucher, mais aussi de nouveau-nés. Au XVIIIe siècle, cette sage-femme, la première du genre, s'est donnée pour mission de former des accoucheuses professionnelles aux quatre coins du royaume de France grâce à son invention. Je vous raconte maintenant la savante enseignante Angélique du Coudray. Nous sommes en avril 1777 à Évreux. Angélique du Coudray est entourée d'une centaine de femmes, jeunes et moins jeunes. Il y a aussi des hommes, chirurgiens et médecins, venus assister à ces leçons qui commencent par quelques connaissances générales sur l'anatomie du bassin féminin et sur les étapes d'un accouchement normal. Angélique du Coudray insiste ensuite sur les accouchements difficiles, apprenant à ses élèves à être prudents, à exercer les bonnes manœuvres pour épargner des souffrances inutiles aux mères.
En attendant le moment de délivrer la femme, on doit la consoler le plus affectueusement possible. Il faut le faire avec un air de gaieté qui ne lui inspire aucune crainte de danger, leur dit-elle, avant de se lancer dans une démonstration sur un mannequin de taille réelle, reproduisant fidèlement l'anatomie féminine. L'assistance suit attentivement les gestes de la sage-femme. On raconte qu'il y a tellement de monde venu suivre ses cours que les manipulations deviennent compliquées. En 25 ans de carrière, Angélique Ducoudray formera plus de 5000 sages-femmes et plusieurs centaines de médecins et chirurgiens dans une cinquantaine de villes de France. L'histoire a retenu très peu de choses sur la vie personnelle d'Angélique Marguerite Ducoudray. Mais on sait que, née à Clermont-Ferrand au début des années 1710, elle s'installe à Paris pour effectuer une carrière de sage-femme dans une ville où une accoucheuse experte peut facilement réussir auprès d'une clientèle fortunée. Elle est d'abord apprentie chez Anne Bersin, une sage-femme réputée, avant d'exercer ce métier dans le quartier du Marais. À la quarantaine, elle se laisse pourtant persuader de s'installer à Thiers en Auvergne par le seigneur local comme sage-femme seigneuriale. Là, elle découvre la misère et la souffrance de ces femmes qui accouchent dans des conditions parfois épouvantables. Les futures mères s'adressent à des matrones, des voisines ou proches, sans formation ni connaissance médicale. Elles ont appris le métier en regardant faire une matrone plus âgée et ont parfois encore recours à des incantations, des amulettes et des potions. Bien trop d'accouchés et de nouveau-nés meurent de leurs mains inexpérimentées. Angélique Ducoudray est intimement convaincue qu'en donnant aux matrones des connaissances gynécologiques solides, la mortalité liée à l'accouchement peut être fortement réduite. Très pédagogue, elle reprend et perfectionne le principe du mannequin de démonstration, permettant l'apprentissage pratique des gestes obstétricaux qu'elle perfectionnera d'année en année. Certains sont réalisés avec un véritable bassin en os. L'un de ces mannequins, aussi appelé machine ou fantôme, représente la partie inférieure du corps d'une femme en taille réelle et possède 8 pièces supplémentaires, comme un fœtus de 7 mois, des poupées de jumeaux en tissu rembourré de coton, ainsi qu'un appareil génital féminin complet et fidèle au dessin d'anatomie de l'époque. Cette pièce porte 21 petites étiquettes manuscrites cousues qui permettent aux élèves d'identifier les différents organes de la reproduction, notamment les ovaires, les trompes de Fallope et bien sûr l'utérus qu'on appelle alors matrice. Il reste aujourd'hui un unique exemplaire du mannequin d'Angélique Ducoudray au musée Flaubert et d'histoire de la médecine à Rouen. En 1756, il est approuvé par l'Académie de chirurgie. Cette validation est importante car la science de l'accouchement est alors sous le contrôle des chirurgiens, tous des hommes bien sûr. 3 ans plus tard, le roi Louis XV lui-même délivre à Madame Ducoudray une pension de 8000 livres par an avec pour mission de prodiguer des cours dans la France entière. À 45 ans, Angélique Ducoudray part alors professer son art dans presque toutes les provinces du royaume. Son enseignement dure 6 à 8 semaines. Il comporte des cours théoriques appuyés sur le manuel qu'elle a publié en 1759, mais surtout des démonstrations, puisque la plupart des élèves savent à peine lire et écrire et n'ont aucune notion de médecine. Elles viennent bien souvent de milieux modestes. Certaines sont obligées de travailler à côté des cours et apportent leurs ouvrages de broderie ou de couture. Pour donner un écho aux cours de Madame Ducoudray, de nombreux moyens sont utilisés. Circulaires aux curés, affiches, gazettes provinciales, et ça fonctionne. À Évreux, en 1777, tant de monde se présente qu'Angélique Ducoudray s'en effraie. À Angers, ils sont 140, c'est un record. En revanche, à Issoudun, seulement 14 élèves se présentent. Oui, les cours dispensés par Madame Ducoudray ne sont pas toujours un succès. C'est qu'il est souvent mal vu d'aller à l'encontre des traditions. Dans les campagnes, les matrones jouissent encore d'une bonne réputation. Elles viennent au secours des accouchés gratuitement. Vouloir les remplacer par des sages-femmes instruites qui se font rémunérer n'est pas simple à obtenir. Et puis, il y a quelques chirurgiens un peu jaloux, méprisants, qui voient d'un mauvais œil qu'une femme puisse les instruire ou leur disputer le rôle de professeur. Heureusement, Angélique Ducoudray a quelques appuis haut placés qui lui permettent de mener à bien son enseignement. Le contrôleur général Bertin organise ses déplacements. Jacques Necker, le ministre des Finances de Louis XVI et l'évêque de Dax, ne cessent de l'assurer de leur soutien. C'est aussi le cas du célèbre marquis de Lafayette qu'elle aurait sauvé à la naissance, comme nombre d'enfants. On la décrit comme un prodige et une femme au talent sublime, mais aussi, selon Turgot, ministre de Louis XVI, comme une personne assez ridicule par la haute estime qu'elle a d'elle-même. Le portrait qu'elle fait figurer dans son abrégé de l'art des accouchements la représente sous les traits d'une bourgeoise sûre d'elle, au regard impérieux. Certains lui reprochent son assurance, mais également son goût pour les cadeaux. Madame du Coudray aurait ainsi sollicité certains de ses élèves pour lui offrir une montre en or. Lorsqu'elle voyage, elle réclame de beaux logements et tire aussi profit du commerce de ses manuels et de ses mannequins qu'elle vend généralement entre 200 et 300 livres pièce. Malgré ses menus avantages, près de 25 ans de voyages ininterrompus s'avèrent éreintants à l'âge venu. Les conditions de transport sont parfois pénibles et pèsent sur la santé fragile d'Angélique du Coudray. À plus de 60 ans, elle souffre de terribles crises de goutte et son embonpoint n'arrange sans doute pas la situation. Fort heureusement, sa nièce, Marguerite Coutenceau, est son époux, la seconde dans sa mission. Progressivement, le couple se substitue à Angélique du Coudray et assume les démonstrations publiques. Après la disparition d'Angélique du Coudray en 1794, il crée un hospice de la maternité à Bordeaux. D'autres établissements associant maternité et école de sage-femme ouvriront rapidement un peu partout en France. Quant aux mannequins de démonstration inspirés de celui d'Angélique du Coudray, ils sont encore utilisés de nos jours. Une femme savante donc, et sacrément en avance sur son temps.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler d'Angélique du Coudray, nous avons le plaisir d'accueillir une historienne qui la connaît bien. Bonjour Nathalie Sage-Pranchère.
Bonjour.
Nathalie Sage-Pranchère, vous êtes chargée de recherche au CNRS et vous avez publié votre thèse sur l'histoire des sages-femmes, l'école des sages-femmes, naissance d'un corps professionnel. À l'époque où Angélique du Coudray naît, c'est-à-dire en 1715, comment est-ce que on accouchait les femmes?
Alors, à l'époque d'Angélique du Coudray, comme aujourd'hui, comme quelques siècles plus tôt, les femmes sont accompagnées dans leur accouchement, généralement par une femme, qu'on va appeler la femme sage, la matrone, la sage-femme, à partir d'une certaine période.
Et en tant que pionnière, Angélique du Coudray n'a eu personne auprès de qui se former. Comment finalement elle a appris le métier qu'elle a si bien réussi à transmettre à d'autres?
Alors au début du XVIIIe siècle, il y a déjà des modes de formation. Ce sont des modes de formation par apprentissage. Donc Angélique du Coudray, elle s'est formée auprès d'Anne Bersin à Paris, comme beaucoup de sages-femmes urbaines. Évidemment, à la campagne, on n'a pas forcément de système de formation auprès d'une autre sage-femme. On apprend parce qu'on accouche soi-même régulièrement et que les accouchements se sont bien déroulés. On va apprendre parce qu'on a vu beaucoup d'accouchements. Mais en ville, en revanche, on a ce système de formation entre pairs par l'apprentissage.
Jean-Luc ?
Oui, vous venez de le dire, il y a les sages-femmes et avant elles, les matrones. Pourquoi les matrones ont vu d'un mauvais œil l'arrivée des sages-femmes et n'ont pas vu forcément l'évolution qui pourtant était là?
Alors, les matrones ont vu à la fois d'un mauvais œil et finalement, elles ont très vite compris leur intérêt. Elles ont vu d'un mauvais œil ces femmes qui arrivaient pour leur expliquer ce qu'elles pensaient déjà savoir faire. Donc là, forcément, ça a pu créer des crispations. Parallèlement, les matrones ont très vite compris que disposer d'une reconnaissance officielle, disposer d'un diplôme, ça allait leur permettre d'être mieux reconnues par leur communauté et d'être préservées dans leur place. Donc, elles ont été suivre les cours.
Et nous avons parlé ici même, il y a quelques jours, dans cette émission, des chirurgiens à l'époque de la Renaissance et à l'époque de Louis XIV. Des chirurgiens qui étaient moins bien considérés que les médecins. C'est aussi, on l'imagine, le cas pour les sages-femmes. Elles étaient certainement bien moins considérées que les chirurgiens. En plus, c'était des femmes, donc...
Alors, les sages-femmes sont rattachées à partir du XVIIIe siècle au corps des chirurgiens. Les chirurgiens qui eux-mêmes ont fini par se détacher des barbiers. Donc, effectivement, elles n'ont pas de corporation à proprement parler, ce qui crée un effet de dépendance vis-à-vis de ce corps des chirurgiens, au point qu'à Paris, dans les années 1740, les chirurgiens se permettent de tenter de supprimer les examens qui permettent de recevoir les sages-femmes. Donc, ils ont un vrai pouvoir sur elles. De surcroît, évidemment, ce sont des femmes qui sont plutôt vues dans une capacité à apporter des services, à apporter de l'aide, ce qu'on appellerait aujourd'hui le care, le souci de l'autre. Et donc, forcément, l'idée qu'on puisse les rémunérer à un certain niveau est quelque chose qui est difficile à entendre d'un point de vue social. Mais malheureusement, c'est encore un peu le cas.
Olivier ?
Oui, on a l'impression qu'Angélique du Coudray avait conscience de son influence. Hein, déjà, c'était, j'imagine, une forte tête, puisqu'il devait forcément falloir l'être pour tenir tête aux hommes à l'époque.
Alors, visiblement, c'est un caractère. Hein, et c'est un caractère qui s'exprime très tôt, puisque dès les années 1740, on trouve sa signature dans des pétitions qui demandent l'amélioration de la formation des sages-femmes à Paris. Donc, c'est quelqu'un qui se place très tôt, qui a d'ailleurs une clientèle de gens assez influents très tôt. Elle exerce dans le Marais, en fait, qui est vraiment une zone où il y a beaucoup de nobles. Donc, c'est un caractère, c'est quelqu'un qui est, elle est consciente de ses compétences, et à partir de là, elle ne lâchera jamais un pouce sur la reconnaissance qui lui est due au nom de ses compétences. Et ça, on le retrouve dans tout son itinéraire, dans tout son tour de France, jusque dans les années 1780.
Angélique Ducoudray a révolutionné la profession, on peut le dire, et la diffusion des savoirs auprès des sages-femmes, grâce notamment, comme je l'ai raconté, à son mannequin qui porte son nom. Ce mannequin a eu un rôle au moins aussi important que le sien ?
Alors, évidemment, le mannequin, il est au cœur d'une nouvelle pédagogie. D'une pédagogie qui met à égalité la dimension théorique de l'apprentissage du déroulement de l'accouchement, de l'anatomie sur planche, et pratique avec véritablement l'entraînement sur le mannequin pour reconnaître les positions de l'enfant et évidemment toutes les difficultés qui peuvent se présenter lors d'un accouchement. Mmh. Alors ce mannequin, c'est pas absolument Angélique qui le crée, puisque il circule quelques modèles de mannequins à partir des années 1710 en Europe. Il y en a quelques-uns à Paris, elle en a probablement vu, mais c'est elle qui va évidemment systématiser son utilisation, qui va le faire rentrer comme un élément essentiel de la pédagogie de l'obstétrique à partir des années 1750.
Dans vos travaux, vous racontez qu'Angélique Ducoudray s'intéressait également au bien-être psychologique des femmes qui accouchaient. Bon, là, ça passe pas par le mannequin, ça passe par quoi ?
Alors, paradoxalement, ça passe aussi par le mannequin, parce que apprendre à s'entraîner sur le mannequin, ça veut dire qu'on va pas d'ores et déjà faire souffrir une femme au moment où on apprend véritablement les techniques obstétricales. Et ensuite, évidemment, Angélique était quelqu'un qui était, mais comme toutes les sages-femmes de son époque, extrêmement sensible à la crainte que pouvait susciter l'accouchement pour les parturientes. Et donc, il y a un souci de rassurer de manière permanente, d'être présente auprès des femmes, parce qu'évidemment, à l'époque, la mortalité maternelle était encore très élevée. Donc, les femmes avaient malheureusement bien raison d'avoir peur au moment des accouchements.
Et aujourd'hui, est-ce que Angélique Ducoudray reste une figure tutélaire pour les étudiants sages-femmes ? Est-ce que son mannequin l'est tout autant ? Comment a-t-il évolué pour continuer à être utilisé encore aujourd'hui, deux siècles plus tard ?
Alors, Angélique Ducoudray, c'est clairement une figure qui reste très connue des étudiantes sages-femmes. Dans certaines écoles, d'ailleurs, vous avez des salles Angélique Ducoudray. Donc c'est une figure qui, parce qu'elle a aussi été remise en valeur par les historiens à partir des années 1980, perdure dans l'imaginaire de la profession comme une figure particulièrement forte. Le mannequin d'Angélique Ducoudray, il est resté en usage, alors avec bien sûr des petites transformations de forme, parce que, et vous l'avez dit, hein, il coûte assez cher le mannequin tel que celui qu'on voit à Rouen aujourd'hui, c'est quand même un objet assez cher. Donc il a été amélioré, parfois un peu simplifié, mais on le retrouve encore aujourd'hui dans les écoles de sages-femmes. Moi j'ai eu l'occasion de voir un entraînement sur mannequin à l'école de sages-femmes de Limoges. Et tout simplement parce que la logique pédagogique qui a été mise en œuvre au XVIIIe siècle est toujours valide aujourd'hui. Il n'y a pas fondamentalement de raison de la modifier. Même si, évidemment, la formation plus largement a beaucoup évolué parallèlement.
Mais merci beaucoup, Nathalie Sage-Pranchère, d'être revenue avec nous sur cette femme savante qui a révolutionné l'obstétrique et le métier de sage-femme. Je rappelle votre thèse qui évoque l'histoire de ces sages-femmes, l'école des sages-femmes, naissance d'un corps professionnel, publié aux éditions Presse Universitaire François Rabelais. Merci à vous.
Merci.
Europe 1, historiquement vôtre.
Stéphane Bern.
Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, avec Jean-Luc Lemoine, David Cassel-Lopez et Olivier Pouls, on réunit des femmes savantes. Après Mileva Einstein et Angélique Ducoudray, vous nous racontez, Jean-Luc, la savante Timnit Gebru.
À quel point sont-elles intelligentes ? À quel point sont-elles dangereuses ? Je parle bien sûr des machines, hein, des ordinateurs. Donc Timnit Gebru est une éminente spécialiste, elle qui a longtemps travaillé chez Google. Elle a donc toute sa place dans notre émission aujourd'hui, consacrée aux femmes savantes, car en termes d'intelligence, sachez que l'humanité se divise en deux catégories. Il y a ceux qui, comme moi, demandent des choses à Google, par exemple le temps de cuisson des poireaux à la vapeur, et il y a ceux, comme Timnit Gebru, à qui Google demande des choses. En l'occurrence, la supervision d'un comité d'éthique sur les biais algorithmiques des intelligences artificielles. Alors, à votre avis, entre ces deux catégories, laquelle est la plus gâtée par la nature ? C'est simple. Si dans votre tête, vous êtes en train de répondre 10 à 15 minutes en fonction de la taille des poireaux, c'est que vous ne faites pas encore partie d'élite.
Oui, j'étais dans cette...
Je vous avoue, moi aussi.
Mais c'est plutôt 12 minutes.
Oui, voilà. Toujours plus malin que les autres, celui-là.
Bah oui, mais il les cuisine, lui.
Oui, c'est ça, exactement. Nous, on les mange, simplement. Mais ça va changer, puisque vous aurez bientôt tout compris au danger de l'intelligence artificielle grâce à Timnit Gebru. Tout commence pour elle en 1982. Elle naît à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. Elle a donc 2 ans lorsque le chanteur Renaud écrit cette chanson pour s'alarmer déjà de la sécheresse. Un problème qui l'a toujours inquiété, la sécheresse. Et hélas, les choses ne se sont pas améliorées pour l'Éthiopie. Timnit Gebru a 15 ans lorsqu'elle doit fuir la guerre qui éclate entre son pays et l'Érythrée. Elle reçoit l'asile aux États-Unis, fait des études d'informatique, puis un stage chez Apple, où elle se spécialise en reconnaissance faciale. Cette même technologie qui a permis jadis à Michel Polnareff de déverrouiller l'iPhone de Stéphane Bern. Oui Stéphane, c'était votre période boucle ronde et vous déclariez à l'époque...
Les cheveux ont poussé, je ressemble à rien.
La preuve que si. Vous ressembliez à Polna. Depuis, à chaque appel reçu, votre portable fait... Ça, c'est un danger de la reconnaissance faciale. Mais peut-être pas le plus grave, il en existe d'autres, révélés par les travaux de Timnit Gebru. Les biais racistes et sexistes dans le traitement des minorités. Sachez qu'encore aujourd'hui, les femmes noires sont à 35% moins reconnues que les hommes blancs par les logiciels de reconnaissance faciale. Oui, c'est étonnant. Mmh. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'exploit. On a réussi à transformer les ordinateurs en gros beaufs. Incroyable, depuis des dizaines d'années, on rêve de concevoir...
Une machine capable de penser et de ressentir les choses.
Tout ça pour fabriquer des tas de ferrailles qui pensent que tous les noirs se ressemblent. Petit sentiment de déception quand même. Des dizaines d'années d'efforts pour au final prendre l'apéro avec des robots qui, malgré leurs milliards de neurones artificiels, traqueront en disant « Santé, mais pas des pieds, hein !» Vous trouvez que j'exagère? Que je vais trop loin? Écoutez donc cette blague entendue dans le film Her, dans lequel Scarlett Johansson joue le rôle d'une intelligence artificielle.
Comment un papa ordi appelle son enfant?
Je sais pas, dis-moi.
Ma puce.
On touche du doigt comme les limites de la science.
Les humains sont une maladie contagieuse.
Matrix l'avait prédit, Timnit Gebru nous le confirme aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que les ordinateurs soient moins cons que les humains qui les programment. Et qui donc les programme? Bah c'est simple. Lors d'un congrès avec 8500 collègues, Timnit Gebru se rend compte qu'elle est la seule femme noire. Oui, l'industrie de la tech est comme la nouvelle dentition de Didier Deschamps. La façade est avenante, mais elle a un problème de blanchitude. L'avantage pour Timnit Gebru, c'est qu'en tant que femme d'origine éthiopienne, dans ce milieu, elle ne passe pas inaperçue. Google la repère et l'engage en 2018. Elle va y mettre en lumière le danger principal de l'intelligence artificielle, la production à grande échelle de contenus haineux ou désinformateurs. L'industrie prend conscience du problème. Par exemple, Microsoft a récemment limité l'utilisation de son logiciel de création de voix. Le risque est trop grand d'usurpation d'identité. Et dites-nous Stéphane, qu'est-ce que vous en pensez, vous, des usurpateurs?
Bande de monstres, criminels, ça mérite perpète, ça. Oh non.
Eh oui Stéphane, c'est pas vous qui avez répondu, c'est Marc-Antoine Lebré, un humain doué. Alors imaginez ce que se pourrait faire un ordinateur, même médiocre. Vous le voyez, avec Timnit Gebru, on est dans le concret, pas dans la science-fiction. Elle ne fait ni dans le catastrophisme à la Matrix, ni dans l'optimisme béat des technophiles de la Silicon Valley.
Un robot ne peut faire de mal à un être humain. C'est la première loi de la robotique.
Oui, ceux qui ont écrit ça n'ont jamais mis la main dans un Thermomix. Et c'est peut-être parce que Timnit Gebru a une vision réaliste des dangers de l'intelligence artificielle que Google a fini par la virer en 2020. Ils se sont comportés avec elle comme Einstein avec sa femme Mileva, bien salement, en lui reprochant de faire exactement ce pour quoi il l'avait engagé. C'est complètement débile. Et ça a le mérite de rappeler que Google n'est finalement pas qu'un repère de génie absolu, mais l'équivalent d'un relais d'autoroute. Ça cartonne parce qu'on a la flemme d'aller ailleurs. J'ajoute qu'ils ont viré Timnit Gebru pour la faire taire, et que résultat, on n'a jamais autant parlé d'elle. Donc finalement, je me permets de changer d'avis par rapport à mon introduction. Google, les plus intelligents, c'est peut-être ceux qui n'y travaillent plus.
Très juste. À demain. Merci beaucoup Jean-Luc.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos femmes savantes pour retrouver deux garçons qui le sont tout autant. David Cassé-Lopez, vous nous racontez les origines du satellite.
Du satellite, exactement.
Mais avant ça, comme chaque jour, mes aïeux, quelle époque aujourd'hui. On parle cuisine avec vous, Lily Poul. Si on remonte dans les années 1880, si à cette époque Pasteur a découvert le vaccin contre la rage, eh bien Olivier, il a aussi changé notre façon de manger.
Oui, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas les plus grands chefs de l'histoire qui ont eu le plus lourd poids sur notre alimentation, sur l'évolution de notre alimentation, mais peut-être ce chercheur, né à Dole dans le Jura en 1822, c'est probablement le scientifique qui a le plus influencé notre alimentation. Et 200 ans plus tard, notre quotidien gastronomique, vous allez le voir, porte encore bien des traces de ses découvertes. Alors, ce chimiste physicien se penche dès 1855, c'est au passage l'année de la création du classement des vins de Bordeaux, sur le phénomène des fermentations. À l'époque, il est doyen de la faculté des sciences de Lille et il est interrogé par un fabricant d'alcool de betterave, on aimait ça à l'époque, peut-être un peu moins aujourd'hui, qui se plaint des odeurs peu agréables que dégagent ces cuves au moment où celles-ci entrent en fermentation. Alors Pasteur va passer des heures, des jours à observer ce qui se produit dans les cuves au moment où le sucre de la betterave se transforme en alcool. Et il va découvrir que ce phénomène est rendu possible grâce à des micro-organismes vivants, les ferments.
Des travaux qui intéressent au plus haut point les producteurs de vin et de bière.
Absolument. Napoléon III est d'ailleurs préoccupé à l'époque par la mauvaise qualité de nombreux vins qui ont tendance à tourner au vinaigre et qui ne voyagent pas bien, alors même que le vignoble français vient de s'ouvrir le marché anglais très prometteur. Il demande donc à Louis Pasteur de travailler sur le sujet. Pasteur est installé à Paris, mais ne reculant devant rien, il va même jusqu'à acheter une petite vigne dans sa région natale. Le Jura, donc, c'est le Clos de Rosières à Arbois. Et à force d'étudier des vins malades dans sa région, il constate qu'en chauffant le moût de raisin à une température de 55-60 degrés, les ferments responsables des goûts indésirables meurent. Il suffit alors d'introduire des ferments ou des levures sûres pour que la fermentation se déroule sans problème. Le vin ne tourne plus ou ne développe plus de faux goûts. Et il se conserve davantage.
C'est le principe de la pasteurisation.
Exactement. Il dépose d'ailleurs le brevet en 1865. Ce principe que les vignerons vont en fait, eux, très vite abandonner. Parce qu'en fait, chauffer le vin le prive aussi d'une partie de ses qualités organoleptiques. Va en revanche être largement utilisé dans d'autres secteurs. La bière, ce qui permettra le développement de la production industrielle des bières et l'ouverture des grandes brasseries dans les années 1870. Mais aussi par la suite, le lait, le miel, les jus de fruits, ou même les œufs et surtout le fromage, tous ces produits très fragiles peuvent alors se conserver et voyager sans crainte. Selon le type d'aliment qu'on veut pasteuriser, il faut le chauffer plus ou moins fort et plus ou moins longtemps. Bah, vous l'avez vu, hein, c'est une révolution absolument fondamentale dans l'histoire de notre alimentation, car ce procédé évite aussi bien des contaminations. Chaque femme enceinte sait aujourd'hui que consommer des produits pasteurisés est bien plus rassurant pour le bon déroulement de sa grossesse.
Oui, enfin aujourd'hui, il y a débat quand même.
Bah oui, dans le secteur du fromage, par exemple, le fameux match entre le fromage au lait cru de nos bonnes vieilles traditions françaises et le fromage pasteurisé que Bruxelles veut nous imposer. On sait que chauffer le lait tue les bactéries potentiellement responsables d'intoxication, je vous l'ai dit. Mais bah, ça dénature aussi le goût des fromages authentiques. Et regardez les amis, qu'est-ce que je vous ai apporté là? Deux assiettes.
Du parfum.
elles contiennent tous les deux du camembert. L'un de ces camemberts est au lait cru, authentique, tel qu'il devrait être fait. Et l'autre, bah, c'est un fromage de camembert au lait pasteurisé.
Donc il faut savoir lequel
et
ben lequel.
Voilà. Et vous goûtez. Et
il faut,
vous
il faut le goûter.
Alors je pense que déjà visuellement, il y a un truc qui se passe.
Oui, oui, bah je pense que j'ai gelé moi.
Ouais. Alors vas-y, Stéphane, allez-y, goûtez ces deux fromages et dites-moi lequel vous préférez.
Lequel. Celui-là, il est normal et celui-là, il est pasteurisé.
Ben voilà, on le voit. Regardez la croûte. Vous avez une croûte qui est toute lisse, qui ressemble davantage à du plastique ou à du caoutchouc qu'à quelque chose de fermenter. Et puis en termes de goût, évidemment, il n'y a pas de match. L'un a une saveur, une profondeur, et l'autre est un peu insipide. Bon, merci Pasteur, mais voilà.
Après, si on n'est pas enceinte, on peut manger celui-là.
Oui, surtout que les bactéries contenues dans les fromages au lait cru nous aident aussi à développer notre propre flore.
C'est bien de me dire ça maintenant, parce que moi j'en ai mangé et je ne savais pas.
Non, mais c'est la première fois que je fais un test comme ça, les deux, c'est
évident.
C'est évident, c'est vraiment profondément meilleur.
Il y en a un, on sent que c'est celui de la cantine.
Ouais, exactement.
Oui, mais c'est pas non plus le même prix.
C'est pas tout à fait le même prix, mais je préfère en manger un tout petit peu moins, mais manger du bon que manger beaucoup de ce camembert insipide.
C'est un peu vous, vous venez pas souvent, mais quand vous venez, parce que vous êtes devenu très cher, ben c'est toujours...
mais vous aussi, vous préférez des chroniques de qualité, en avoir un peu moins.
Absolument.
Bien sûr.
Absolument.
Je crois qu'il parlait de vos bactéries aussi.
Ah, d'accord.
Merci beaucoup, Olivier. Ah, mes aïeux, quelle époque.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Les origines.
Pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine, Olivier Pouls, et surtout maintenant avec vous, David Casse-Lopez. Oui, on monte très haut. Vous nous racontez les origines du satellite.
Vous savez ce qui se passerait si on éteignait d'un coup tous les satellites?
Hein? On nous entendrait plus.
Et voilà, déjà. Il y a un scientifique américain qui s'appelle Moriba Dja et qui s'est posé la question de ce qui se passerait si on éteignait d'un coup tous les satellites. Et la réponse, ce serait la merde à une échelle qu'on n'a jamais connue. Parce que bon, il y a les trucs évidents, genre les satellites, beaucoup de chaînes qu'on regarde à la télé, elles émettraient plus. Sans satellite aussi, pas de GPS. Alors on va se dire, bon, bah, c'est pas si grave, pas besoin
de Waze.
Pas besoin de Waze pour aller au boulot, on a les panneaux. Mais le GPS, le problème, c'est que c'est aussi ce qui permet aux avions, aux bateaux, aux trains de pas se rentrer dedans. Donc tout ça, d'un coup, c'est fini. Plus de train, plus d'avion, tout s'arrête. Plus de livraison de médicaments, donc.
Est-ce que c'est pas comme ça qu'on pourrait faire baisser la population mondiale?
On vivait très bien sans les satellites.
Oui, mais avant. Attendez. Je finis avec cette histoire de qu'est-ce qui se passe si on n'a plus de satellites. Il y a plus de livraison de médicaments, donc plus de nourriture non plus. Plus de livraison de nourriture, ce qui veut dire qu'une fois qu'il n'y a plus rien à l'épicerie du coin, bah il n'y a plus rien du tout. Et bien sûr, à l'épicerie, vous avez intérêt à payer en espèces, parce que les terminaux de carte bleue. Inutilisable sans satellite. Après vous dites c'est pas grave, pour avoir des espèces j'ai qu'à aller au distributeur de billets.
Oui, il marche
non
pas avec
plus.
Il marche pas.
Il marche avec des satellites aussi. Tout ça c'est lié à un système monétaire international avec des tampons horaires qui sont faits par les satellites. Donc pas de distributeur de billets non plus. Donc pas de liquide. Et le truc c'est qu'on pourrait pas. C'est ce que vous disiez Stéphane, mais on a qu'à revenir en arrière. Mais le truc c'est que non, parce que toutes les technologies que les satellites ont remplacées, toutes les infrastructures nécessaires, elles ont été supprimées. Donc voilà, tout ça pour introduire ma chronique en disant merci vorace les satellites. Bon, vous savez tous quel a été le premier satellite de l'histoire de l'humanité? Ah, aucun. Mais si, très connu.
On est monté sur la Lune là-haut?
Non, avant. La première chose qu'on a fait tourner autour de la Terre, artificielle. Spoutnik, bien sûr.
Oui.
Oh, voilà, je m'attendais à dire bon, évidemment, mais c'est très bien comme ça, on apprend choses.
On imagine quelque chose qui interagissait avec la Terre. Là, ça tourne, c'est une boîte d'enfer qui tournait, c'est tout.
Et ça se voit que vous connaissez pas très bien. En juillet 1955, les États-Unis ont dit on va mettre bientôt un satellite en orbite tellement on est fort nous les Américains. Mais ils ont été humiliés. Avec une force qu'on a oubliée depuis. Le 4 octobre 1957, c'est pas les Américains, mais les Russes qui ont lancé le premier satellite qui s'appelait donc Spoutnik. Vous savez ce que ça veut dire en russe, Spoutnik?
J'ai su, mais je l'ai oublié.
Ça veut dire compagnon de route. Voilà, c'est joli. Spoutnik, c'était une boule de 58 cm de diamètre avec des antennes. Et vous savez quelle était sa fonction?
Faire bip.
Exactement. Alors, la première fonction, on pourrait dire, c'est surtout d'emmerder les Américains. Oui. Ça, très fort. Mais effectivement, la seule chose que Spoutnik faisait, c'était d'émettre un petit bip régulier. Ce bip, il a été enregistré. Et donc, je peux vous le faire écouter. Le voici. Oui. Voilà, c'est le bip de Spoutnik, un bip russe. C'est difficile aujourd'hui d'imaginer à quel point ce bip, il a fait peur aux Américains qui ont vu passer Spoutnik au-dessus de leur tête sans pouvoir rien faire du tout. Les Américains se disaient, oh là là, s'ils peuvent envoyer une boule au-dessus de nos têtes, ils vont bientôt pouvoir nous envoyer des missiles nucléaires dans le visage. Mais les humiliations de cette année 1957 pour les Américains, elles en étaient qu'à leur début. Un mois plus tard, le 3 novembre 1957, les Russes ont envoyé en orbite un être vivant.
Un chien.
Exactement, qui s'appelait
Laïka.
Qui s'appelait Laïka, vous le savez tous, vous êtes super. Laïka, c'était une chienne errante des rues de Moscou. Ils avaient pris une chienne errante et pas un chien de laboratoire parce qu'ils se disaient, ouais, attends, les chiens errants des rues de Moscou, ils savent endurer des conditions difficiles. Mais ça n'a pas empêché que Laïka, qui est morte dans son satellite quelques heures à peine après le décollage. de chaleur parce qu'il faisait trop chaud. Et troisième humiliation pour les Américains, le 6 décembre 1957, ils ont essayé de lancer, eux, leur propre satellite, mais la fusée a explosé sur le pas de tir, ce qui lui a valu le surnom de Kaputnik, en référence à Spoutnik, ah, la vrai. Grosse honte des ténèbres dans le visage des États-Unis. Mais tout ça, c'était sans compter sur un monsieur nazi, dont j'ai déjà raconté l'histoire ici, et qui s'appelait Werner von Braun, et qui s'est mis au travail. Et le 31 janvier 1958, les États-Unis ont lancé le premier satellite américain qui s'appelait Explorer 1. Et le premier satellite français, vous savez de quand il date ?
Non.
1965, et il s'appelait
Astra.
Jean-Jacques.
Pas loin ! Astérix.
Ah.
Astérix lancé depuis l'Algérie. Alors aujourd'hui, je l'ai dit, il y a plus de 5000 satellites en activité dans notre ciel. Ils sont soit proches, soit moyens proches, soit loin. Ceux qui sont loin, ils sont généralement à une distance super précise de 35 786 km. C'est ce qu'on appelle les satellites géostationnaire. Vous savez ce que ça veut dire, géostationnaire?
Il reste toujours au même endroit, oui, par rapport à la Terre.
Exactement. Voilà. Il s'y connaît. C'est quand même, ah ouais, celui d'entre, voilà, nous qui s'y, ouais, connaît le, ça, mieux. Ouais, il tourne, parce qu'il tourne exactement. Il tourne exactement à la même vitesse que la Terre et autour du même axe, ce qui fait que, vu depuis la Terre, ils ont l'air, oui, d'être immobiles, toujours au même endroit. Et ça, c'est pratique. Pourquoi? Eh ben, pour diriger les antennes.
Petite précision, David. Ah ouais. Ils ne tournent pas à la même vitesse. Ils tournent beaucoup plus vite puisqu'ils sont beaucoup plus loin sur le rayon.
C'est la vérité. C'est la vérité.
Ben voilà.
C'est la vérité.
Alors là.
Ils ont l'air. Ils ont l'air de tourner. Ils ont l'air.
Olivier, racontez-nous la suite, s'il vous plaît.
Qu'un spécialiste parle enfin.
La même vitesse angulaire. On me souffle en régie. Donc voilà, je voulais parler de vitesse angulaire.
Oui,
voilà,
oui,
c'était ça.
Est-ce qu'ils ont besoin de maintenance?
Alors je n'ai
comment,
pas.
Comment vous faites? Parce que
en tout cas, il y en a plein qui restent dans l'atmosphère. Enfin, dans l'espace.
Mais pendant combien
l'espace.
De temps ça peut pas rester toute la vie?
Ah ben, il reste très longtemps parce qu'il y a pas beaucoup d'oxygène qui pour les.
C'est une poubelle là-haut, Stéphane. Vous savez, c'est une
merde.
Poubelle.
C'est la merde.
Ah vraiment?
Ah oui.
Mais donc la même vitesse angulaire, il tourne à la même vitesse angulaire que la Terre, et
répétant qu'on va vous donner le point. Hein,
non, parce que j'avais oublié une petite précision qui était de préciser que c'était angulaire. Et non, et ça c'est pratique parce qu'ils sont juste en face, ils ont l'air de pas bouger, et donc quand on dirige nos antennes paraboliques, on n'a pas besoin à chaque fois qu'elles suivent le satellite, elles peuvent rester dans le même axe, et comme ça on peut voir par exemple Radio Télévision Portugaise International.
Merci beaucoup.
De temps en temps, on voit l'été, on voit passer des trains de satellites. Vous, oui, savez, le fameux train de satellites, oui, lancé, oui, par Elon Musk. Et on le voit dans le ciel, on voit toute une série de petites lumières comme ça qui se suivent comme un train. Alors on peut les voir à l'œil nu.
Moi, j'observe souvent l'ISS qu'on peut voir. Moi, j'ai une application qui est ISS Finder. Et l'été, vous avez une petite étoile comme ça qui bouge mal loin et puis vous pouvez la voir.
C'est votre satellite.
Exactement.
Quelle chance.
Le vôtre aussi.
Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui mouillent la chemise. Joseph Kessel, le journaliste écrivain qui a parcouru le monde en bras de chemise pour nous le raconter. Puis le mousquetaire et tennisman, surtout René Lacoste, qui a mouillé la chemise sur les cours avant d'en faire un polo. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez un philosophe en chemise ouverte, sans chaîne en or qui brille, sur les terrains de guerre.
Oui, le grand, le seul, l'unique, BHL, Bernard-Henri Lévy, ou la chemise la plus blanche de l'humanité.
Alors, vous allez mettre une chemise pour l'occasion?
Non, ça, c'est le look de David.
Ah. Alors, à demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre, tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1, et en podcast sur europe1.fr.